Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 32e et dernier épisode de Torréfaction de l'année. Salut Kef.
Ça va, Fasquille ?
Écoute, c'est la fin de l'année, on va vite passer à autre chose. Hein.
Et c'est la semaine prochaine, ça va être tout différent, comme à chaque fois.
Voilà, et nous on fait pas de bilan de l'année, parce que de toute façon une année où je viens de voir que Wired a eu le président des États-Unis comme l'une des personnalités les plus dangereuses du web, je pense qu'il vaut mieux pas trop regarder dans le rétro. Et on va passer vite à 2018 en espérant que ça aille un peu mieux. Dernière news donc de cette année, avec du côté du gaming, on va reparler de PUBG.
Non, c'est un mensonge monsieur.
C'est vrai.
Nous allons parler de Counter-Strike Go.
Ah.
Et d'un mode, ok, qui ressemble à PUBG. Bon, ok, ça va, c'est pas grave non plus. C'est l'histoire d'un mec qui s'est dit, tiens, si on utilisait CSGO pour faire du PUBG, vu que c'est pas du tout prévu pour ça. Moi, j'aime bien les gars qui relèvent des défis. Donc, ça s'appelle Go for the Kill. Je vous mettrai le petit lien dans le texte qui va avec ce podcast, comme d'habitude. Le but du jeu, c'est de jouer. Alors, lui, il vise jusqu'à 49 ou 50 joueurs, mais pour l'instant, c'est plutôt autour de 20 sur ce mode qui est donc entièrement fabriqué à base de CSGO. Évidemment, vous allez vous dire, mais le gameplay, il n'est pas complètement adapté pour faire du PUBG, des combats à longue distance, etc. Ça tombe bien, c'est pas exactement ce qu'il veut faire. Il veut un truc plus orienté action. Il y a plutôt 20 joueurs que 40 actuellement sur les maps et sur la map. Et pour résoudre la problématique de la taille de la carte, le mec a eu une idée qui est quand même assez violente, j'ai envie de dire. C'est quatre cartes qui sont collées les unes aux autres.
D'accord.
Et il y a des montagnes, et quand tu passes sur la montagne, tu switches en fait automatiquement sur l'autre carte.
Ce qui est malin.
Après, s'il y a un mec qui est en train de te tirer dessus de l'autre côté de la montagne, ne sais pas du tout comment c'est géré. Je vous avouerai que je n'ai pas testé la chose. J'ai vu passer ça tout à l'heure, ça m'a fait beaucoup rire. Du coup, je vous laisse tester. Il y a un lien aussi vers une news de Kotaku qui a une vidéo intégrée qui est intéressante, puisque le mec explique pas mal de trucs, entre autres comment la balistique des balles a été modifiée par rapport à CSGO. Donc ça ressemble de ce que je vois plus à la balistique un peu pétée de Fortnite. Du coup, si vous aimez bien Fortnite, ça se teste. Mais c'est vraiment, déjà c'est gratuit, et puis ensuite c'est rigolo de tester ça. Et avec le nouveau moteur de CSGO qui arrive, je me dis que peut-être que la scène de mode va donner des choses intéressantes. Surtout que Valve est en train de modifier le code source du jeu au niveau du réseau, par exemple.
D'accord.
Il y a plein de rumeurs qui disent que évidemment la mode du truc leur est pas complètement passé sous le nez vu comment ils sont faits exploser au nombre de joueurs en ligne.
Sans deck.
Donc, plus de Battle Royale en 2018.
Un Dota Battle Royale.
Mon niveau de surprise serait de zéro à peu près. Donc on verra ce que ça donne. En attendant, écoutez, allez essayer ça.
Go for the kill donc. Et puis on va reparler du jeu de l'année 2038.
Peut-être. Franchement, 2038, c'est peut-être un peu tôt.
Ouais.
Donc on parle de Star Citizen, dont l'alpha 3.0 vient de sortir.
Ouais.
Tout le monde en a parlé dans des termes hyper gentils. Moi, je trouve qu'il y a une forme d'autocensure sur les sites qui parlent de Star Citizen, où les mecs se disent « Non, je ne veux pas avoir 50 milliards de
c'est
boulets
ça, ouais.
dans mes commentaires. Je préfère faire un article à charge sur la scientologie que de parler de ça. » Je les comprends en même temps. On l'a vécu, je crois qu'on est à plus de 600 messages sur la news que j'avais fait à l'époque. Cette version 3.0, c'est de la blague. Je suis désolé de vous le dire.
Merde.
Parce que, faut se rappeler que la version 3.0 devait être l'alpha de toutes les alphas, le truc qui met tout le monde d'accord pour expliquer que le jeu il est extraordinaire et qu'on est vraiment trop des cons d'avoir dit du mal. Non, en fait, c'est tout pourri. Il y a peut-être 10% des trucs qui étaient annoncés au fil des années dans cette version 3.0, qui était prévu, pour la 3.0, pas pour la finale. Les mecs avaient dit dans l'alpha 3.0, il y aura ci, ça, machin. Bon, il y a pas du tout ce qu'ils avaient dit. Il y a plein de trucs. Mais c'est pas du tout au niveau de ce qui était prévu. Y a une vidéo de 1 heure qui va avec ça pour présenter Star Citizen, mais pas Star Citizen en fait. Squadron 42, dont on a un peu parlé la semaine dernière.
Le spin-off
solo, qui est censé nous rassurer quant à l'état du jeu. Donc ça, je vous laisse regarder, je vous laisse vous rassurer tout seul, parce que moi, ça m'a pas tellement rassuré du tout. Surtout quand on arrive à la partie FPS, qui est catastrophique. L'écriture est pourrie, mais ça, c'est du Chris Roberts, donc je suis pas surpris.
Non.
Mais en plus, on a vraiment un problème. Donc, les deux démos mis bout à bout, l'alpha de Star Citizen et le truc sur Squadron 42, me rappellent à quel point je ne comprends pas, mais vraiment, je pige pas, pourquoi Chris Roberts est obsédé avec cette simulation de tous les trucs chiants de la vraie vie. C'est-à-dire que vraiment, faut se lever tous les matins pour aller mettre sa combinaison, pour marcher, pour aller commander son putain de vaisseau sur un terminal alors qu'on a un espèce de smartphone de la Knight sur son bras, tu vois. Mais on peut pas appeler son vaisseau avec. parce que le truc il doit pas être connecté, j'en sais rien. Et il y a plein de trucs complètement débiles tout le temps dans le jeu. Je parle même pas de la tech, hein. Je parle pas du fait que ça rame ou quoi. Ok, ça, on s'en fout. C'est une alpha, très bien. Mais en termes de design, c'est catastrophique sur tellement de points. Je ne comprends pas l'intérêt en termes de gameplay. On va me dire oui, mais c'est l'immersion. C'est l'immersion, mais c'est rigolo la première fois.
C'est ça, tu te fais chier dans la vraie vie, viens te faire chier dans un jeu vidéo.
Non, mais c'est ça, quoi. Genre, même les mecs dans WoW, il y a tous les trucs qui étaient chiants au fil des ans, ils les ont virés. Mais là, ça, c'est plus le jeu avance, plus il en rajoute, en fait. Et bientôt, il va falloir mettre sa couche pour aller dans le vaisseau spatial, parce que bah, tu restes pendant des heures, tu as peut-être envie de faire pipi, j'en sais rien, mais c'est juste pas possible, quoi. Donc, moi, franchement, je suis hyper frustré de ça, parce qu'il y a quelques bonnes idées, on va pas se mentir. Hein. Moi, il y a des trucs, je suis même client, mais dans l'ensemble, c'est une catastrophe. Donc, bon, bah, on va être obligé de jouer à Elite et faire de la livraison de trucs. Moi, je mate beaucoup de Netflix en ce moment grâce à Elite. Parce qu'il y a des missions qui rapportent beaucoup, mais c'est 40 minutes de vol en ligne droite, tu vois.
Et putain, faut avoir envie, hein.
Alors, ça tombe bien parce qu'on va parler d'un truc dans la culture, là, tu vois. Et bah, je me dis que je vais me faire des millions en regardant ce truc-là.
Oui, on en parlera tout
donc,
à l'heure.
Donc, voilà. Donc, Star Citizen, bah, on va continuer de suivre ça. Mais pour l'instant, l'Alpha 3.0 qui est enfin disponible pour tout le monde, bah, du coup, si vous avez backé le jeu il y a 1500 ans, allez l'installer. Vous nous en direz des nouvelles sur le forum. Moi, je suis toujours extrêmement dubitatif pour être super poli.
Voilà, et puis nous, on fait pas de top, mais il y en a un autre qui fait des tops, c'est Pipo, puisqu'il il nous a accordé cette année donc le privilège de ses Pipo Awards.
Ouais.
C'est donc ses awards à lui, hein, vous verrez, c'est assez particulier. il a écrit ça avec énergie hier, hein, je crois qu'il y a, tu me disais 30 000 signes, c'est ça?
Ouais, je sais plus, j'ai perdu le fil au bout d'un moment parce qu'il en rajoutait, tu vois, il avait des idées de catégories, plus il avançait, plus il avait des idées. Et du coup, Pipo Mantis nous a fait un roman.
Voilà, un roman qui sera publié à 10h, donc d'ici une petite heure, vous pourrez lire ça, et c'est assez rigolo. Donc bah, voilà, les Pipo Awards chez Geekzone cette année, on est bien contents. On va passer du côté des apps. Hein, je voulais vous reparler de LibriVox, parce que j'en ai parlé cette semaine. Alors, on sait que sur le marché aujourd'hui, quand on parle d'audiobook, on pense surtout à Audible, à la propriété d'Amazon, qui est devenue un peu incontournable, qui a un catalogue de plus de 200 000 titres dans plein de langues. Mais on pense pas toujours qu'il y a des alternatives open source. Alors, ça a des avantages et ça a des inconvénients. L'avantage principal, c'est que c'est gratuit. Les inconvénients, c'est que c'est du domaine public, donc il y a évidemment que de la littérature classique, on va dire, ou des ouvrages qui sont pas des ouvrages commerciaux, donc vous n'aurez pas trouvé le dernier Stephen King, par exemple, sur un service de ce type. En revanche, bah, ça vous permettra d'avoir accès quand même à un bon paquet de grands classiques de la littérature, lus donc par des amateurs. Ça aussi, ça peut être un inconvénient, parce que bah, tout le monde n'a pas une voix radiophonique. En général, ils essaient de mettre en avant les trucs de qualité, donc ça, c'est plutôt cool. Et le gros avantage, c'est que comme c'est tout open source, bah, si tu décides un jour d'améliorer une lecture que tu trouves pas très bonne et tu te dis tiens, je pense que je pourrais faire mieux, bah, tu peux le faire. Tu peux mettre à jour les bouquins, ce qu'on peut pas faire évidemment sur Audible. Faut se contenter de la voix qu'on a. Donc voilà, je voulais parler de LibriVox et je voulais surtout en profiter pour parler de littérature audio qu'on m'a recommandé via Twitter. C'est Nicolas Prigent qui m'a signalé ça sur Twitter, qui est donc l'équivalent en gros francophone de LibriVox, parce que évidemment sur LibriVox on trouve que une majorité d'ouvrages en anglais, et sur littérature audio bah c'est l'équivalent français, et c'est plutôt pas mal foutu. Le site PayPadmin, comme souvent sur les trucs open source, j'ai envie de dire, sans être méchant, mais en revanche le contenu, bah voilà, si vous avez pas de sous pour aller prendre un abonnement sur Audible et que vous voulez découvrir des classiques de la littérature française, bah vous pouvez le faire sur littératureaudio.com. Je filerai tous les liens qui vont bien dans la news qui accompagne ce podcast, et je vais terminer cette section apps en vous parlant d'un vieux tool que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Audio Overload. Je sais pas si toi t'en avais déjà entendu parler.
Pas du tout.
Alors, on a trouvé ça un peu par hasard, on cherchait avec Pipo et Gotos justement quand on enregistrait Les Démons du Midi. On cherchait s'il y avait pas des utilitaires pour aller récupérer les vieux morceaux de musique directement dans les jeux plutôt que d'attendre qu'ils sortent officiellement ou de devoir aller faire des rips tout pourris sur YouTube pour les passer dans l'émission. Et on est tombé sur Audio Overload, qui est un vieux tool qui est plus mis à jour depuis 2008, je crois. Mais bon, en même temps, les formats des vieux jeux vidéo ont pas changé des masses non plus. Ouais. Et qui permet donc de lire 33 formats de musique de jeux vidéo. Il y a le AHX et les modes d'Amiga, le format NSF de la NES, il y a même le format ORC du TRS-80 Orchestra 90, les formats PSF, PSF2 pour PS, PS2, Atari ST, Amstrad CPC, ZX Spectrum, enfin il y a 33 formats de fichiers qui couvrent à peu près tout. Il fait de la décompression zip transparente, il fait de la normalisation à la volée, il permet aussi, et ça c'est le gros avantage du tool, c'est qu'il permet de faire un export en WAV. Donc si vous récupérez donc les fichiers musicaux au format musique donc d'époque, et ça se trouve relativement facilement en cherchant un peu sur le net, et ben vous pouvez après faire des beaux WAV tout propres avec les sons d'origine, et vous pouvez vous écouter ça en boucle ou les passer dans Les Démons du Midi en ce qui nous concerne. Donc voilà, Audio Overload, je voulais en parler, ça méritait pas une news sur Geek Zone, mais parce que le tool n'est pas vraiment nouveau, mais il fonctionne très très bien sur Windows 10 64 bits, donc voilà.
Alors il y a un truc, du coup, je voulais juste rappeler son existence. Moi j'en ai parlé sur Geek Zone il y a super longtemps, je crois, mais il y a un truc qui s'appelle Modizer sur iOS, qui est fait par un dev français. Cocorico, ça coûte 2 balles, je crois. Je l'ai acheté il y a 1500 ans, j'ai dû le payer que dalle, je sais même pas si je l'ai acheté à l'époque, tu vois, c'était peut-être une promo. Et pareil, ça gère 1 milliard de formats que vous pouvez balancer directement zippé, pas zippé, 7-zippé, whatever, dans votre iOS truc, et vous pouvez écouter vos musiques directement dans votre device.
Voilà, et je trouve ça super pratique, et j'en avais jamais entendu parler, Pipo et Gotos non plus, donc on s'est dit qu'on était probablement pas les seuls. Audio Overload, je vous filerai le lien qui va bien. On va passer à la culture. Et c'est là que tu vas pouvoir voir tes trucs à mater pendant Elite.
Ah.
Jean-Claude Van Johnson, est-ce que tu en as entendu parler de cette
non
série?
Non mais t'es ouf, je l'ai mis de côté depuis 1500 ans.
C'est vrai.
C'est le truc, il est dans ma liste de lecture et j'ai maté. Le truc qui m'arrive jamais, parce que alors, pour les gens qui me connaissent, j'ai à peu près 2 millions d'années de retard sur à peu près toutes les séries télé.
Je le confirme.
Mais ce truc-là, il est de côté depuis que ça a été annoncé et j'allais vérifier donc l'application de nos amis de chez Amazon Prime Video. Ah. Elle est pourrie, hein, faut quand même s'en rappeler. Et c'est pas grave, je la lançais pour aller checker si c'était sorti, parce que je suis un foutu de retenir une date ou de la noter, vous pensez bien.
C'est sorti le 15 décembre dernier.
Bah voilà, et là du coup maintenant j'ai vu que c'était sorti et je suis prêt.
Alors moi je l'ai maté, alors on va réexpliquer un peu pour les gens ce que c'est. Hein. Donc
ouais,
Jean-Claude Van Johnson, c'est un projet qui tourne depuis l'année dernière, 2016, où il y avait eu le pilote en fait date de l'année dernière, et c'est ce qui a permis donc au créateur de décrocher un deal avec Amazon. Donc il a fallu attendre quand même un certain temps avant qu'il tourne les autres. C'est pour le moment 6 épisodes qui sont sortis donc d'un coup le 15 décembre dernier, comme je le disais. Alors le pitch, c'est quoi? C'est Jean-Claude Van Damme, qui est donc l'acteur qu'on connaît tous, hein, à la retraite.
Monsieur Bloodsport.
Voilà, plus ou moins à la retraite, on va dire, mais qui est aussi, et ça on ne le sait pas, un agent secret sous le nom de Jean-Claude Van Johnson, qui là pour le coup est aussi à la retraite, mais qui décide de revenir au boulot d'agent secret après avoir croisé son ex, qui elle aussi est agent secret. Donc voilà, il se souvient de leurs bonnes aventures, il essaie de la reconquérir. Alors c'est très méta en fait, on avait déjà vu ça un peu dans le film JCVD, justement, aussi avec Jean-Claude Van Damme de Mabrouk El Meshri, qui était sorti en 2008. C'est un setup très fauché avec une seule caméra, c'est un format 30 minutes. Ça a été créé en fait par Dave Callahan, qui écrit la série aussi, donc qui avait co-écrit les 2 premiers Expendables avec Stallone, et qui bosse sur le futur scénario de Wonder Woman 2 pour 2019, donc c'est pas n'importe qui. Et c'est réalisé, tous les épisodes ont été réalisés par Peter Attencio, et là pour le coup, c'est le mec qui a bossé avec Key & Peele sur Comedy Central. Jordan Peele, qui a fait par la suite Get Out, hein, qui était un duo de comiques très connus, que m'avait recommandé d'ailleurs Pipo, et qui ont fait un film qui s'appelle Kinou, qui a plutôt bien marché aussi. Donc voilà, c'est pas des amateurs, c'est des mecs qui ont un angle très particulier, on va dire. Alors moi, j'ai maté les 6 épisodes, c'est très très étrange. Ça commence comme un truc très très potache, avec de l'humour assez visuel, des blagues vraiment limite. Et puis ça évolue au fur et à mesure de la série vers un truc parfois avec des introspections un peu métaphysiques, donc on joue un peu sur le côté Jean-Claude Van Damme, la relation avec ses parents, etc. Enfin c'est assez barré, je suis encore incapable, là je l'ai maté, j'ai maté ça hier soir, je suis encore incapable de dire si c'est quelque chose que j'ai bien aimé ou pas, mais en tout cas je recommande le trip parce que c'est assez, enfin j'ai rien vu de similaire à la télé depuis très très longtemps. C'est un angle vraiment super particulier. Enfin, il y a une histoire de jumeaux maléfiques, il y a du voyage dans le temps, enfin ça part dans tous les sens. Oui, non, c'est assez barré.
Wow,
donc voilà, accrochez-vous, Jean-Claude Van Johnson. Donc voilà, c'est un trip de 6 épisodes pour le moment. Je sais pas s'il y aura une suite parce que très franchement, le dernier épisode se termine sur une conclusion. Voilà, c'est plus de drogue. Puis Amazon s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a produit là? Donc voilà, on verra si ça continue, mais en tout cas, ouais, matez-les, c'est 6 épisodes de 30 minutes, ça se mate assez vite, et pour le coup, c'est voilà, vous regretterez pas le voyage, en tout cas, c'est le moins que je puisse vous dire.
6 épisodes de 30 minutes, ça me rapporte 600 millions dans Elite,
voilà.
je suis chaud. Je suis chaud, c'est parti.
Allez, j'arrête de parler, on va passer du côté de la tech, on va parler d'un vieil ordinateur.
Oh, tu parles pas des vieux trucs de 83 comme ça, s'il te plaît. Oui, parce que donc une petite news un peu anecdotique, mais rigolote, le code source de l'ordinateur Lisa de Monsieur Apple va être disponible en 2018. Alors, Lisa, l'ordinateur nommé avec le prénom de la fille de Steve Jobs, hein, qui a tout mis en place pour créer le Mac derrière, puisque c'est le premier ordinateur d'Apple avec une interface graphique, celle-là même qui a été inspirée par le petit trip dans les laboratoires de Monsieur Xerox par Steve. Et ça a fait un énorme flop. Ça coûtait un bras, une rétine, 2 reins et ta petite sœur pour pouvoir être acheté à l'époque. C'est un truc, juste, c'était pas achetable à l'époque.
Quoi. Je vais la retenir, cette formule. Elle était très bien. Un bras de rein et ta petite sœur.
Et du coup, ce truc qui a complètement disparu, puisque le Mac lui a roulé dessus, mais alors, tu vois, le grand frère a pris super cher. Ouais. Et c'était complètement oublié. Il y a des émulateurs qui existent, évidemment, mais le code source n'a jamais été disponible. Et ça fait partie d'un c'est un morceau d'histoire de l'informatique, mine de rien. Mm-hmm. Du coup, il a été retrouvé. Je ne sais pas comment, j'ai pas tout lu, je vous avouerai. J'ai pas fait mes devoirs. Mais ce que je sais, c'est qu'il est en analyse chez Apple actuellement, qui vérifie qu'il n'y a pas des trucs trop bizarres à l'intérieur. Et qui va être repackagé et mis à disposition en 2018. Du coup, les gars vont pouvoir regarder ça, triturer ça, refaire des émulateurs pour rire, j'imagine. C'est une petite chips qui fera plaisir aux gens qui sont férus d'antiquité.
On sait pourquoi ils ont décidé de le sortir maintenant. Il y a pas.
Parce qu'en fait, je crois qu'il n'était pas, dispo. Les mecs,
ils savaient pas où il avait foutu en fait.
Ouais, ouais. D'accord. Du coup, le truc va être récupéré, et mis en forme et hébergé correctement par le Computer History Museum. Mais je sais pas, j'ai pas le fil exact de comment où était rangé le bordel, mais en tout cas c'est plutôt c'est une bonne nouvelle. Mais aussi, allez voir les photos du truc, parce que franchement
on vient de loin,
c'est les années 80, tu vois, c'est la science-fiction des années 80. Je trouve ça, le design, je le trouve extraordinaire.
Et on va rester avec Apple pour la suite, des procès qui tombent, on est vraiment surpris, tiens.
Alors en 2017, tu vois, ils rigolent pas, en revanche, il se passe 2-3 trucs. Donc en fait, j'en avais parlé la semaine dernière, on est toujours sur l'histoire de « Oh mon Dieu, Apple ralentit ses iPhones quand les batteries sont usagées ». Du coup, aux États-Unis, dès qu'il y a de la thune à se faire avec une class action, t'imagines bien que les mecs, ils sont tous partis dans cette direction. Il y en a une qui demande 999 milliards de dommages et intérêts. Voilà, donc elle, je pense,
c'est sérieux,
ouais, que sa class action ne va pas aboutir. Donc évidemment, il y a plein de loufoques qui sont capables de trouver n'importe quel avocat sous une caillasse pour avoir un procès en bonne et due forme. Donc lancer le procès, évidemment, c'est facile. Ne faire en sorte qu'il tienne, c'est une autre histoire. On fera les comptes début 2018. Mais évidemment, il y a plein d'autres pays qui s'y mettent. Il y a une enquête qui est lancée en Corée du Sud par l'organisme qui s'occupe un peu de tout ce qui est obsolescence programmée, électronique, etc. Mais qui veut juste avoir des informations, donc on les comprend. J'ai envie de dire que pour l'instant, c'est pas un procès, donc voilà, ça me paraît plus une réaction logique, en fait. Et chez nous, on a des gars qui se sont lancés aussi, toujours dans des procès pour obsolescence programmée, puisque je vous rappelle que c'est puni par la loi chez nous depuis 2015, et que c'est évidemment totalement interdit, et c'est très bien. Mais a priori, ce n'est pas d'obsolescence programmée. Si vous voulez savoir ce que j'en pense, vous allez écouter le podcast de la semaine dernière, parce que j'ai autre chose à... j'ai des trucs plus frais pour cette semaine. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que les gens qui sont derrière ça et l'association qui s'occupe de ça, a priori son petit agenda bien à elle aussi de son côté, parce que le patron de la sauce, c'est un mec qui est pour l'économie circulaire, etc. Ce qui est très bien, tu vois, il faut recycler, hein. Je vous laisse regarder sur internet ce que l'économie circulaire, ça fait sens. Mais il est pas là juste pour la beauté du geste, il est aussi là pour faire sa promo, et je doute très honnêtement que le truc tienne très longtemps aussi devant la justice. On verra bien ce qui se passe. En attendant, ce que j'en retiens, c'est qu'Apple a été vraiment super nul en communication.
C'est clair.
Mais j'ai les trucs contre eux tout à l'heure dans le rant, donc on va s'arrêter là, on va en garder pour tout à l'heure.
Et on va parler d'Instagram qui fait de la merde aussi.
Ah mais alors ça fait un moment. Donc on n'est pas déçus, c'est ça qui est bien.
C'est constant
et surtout depuis que Facebook est le patron. Alors lien de cause à effet, je ne sais pas, je voudrais pas dire du mal. Non, franchement, qu'est-ce qu'ils nous ont fait de beau, c'est que depuis déjà que le feed n'est plus classé par ordre, mais qu'on vous aide à découvrir des photos de vos amis, même si elles ont 3 jours, c'est pas grave. Comme ça, vous ne pouvez plus regarder dans l'ordre. Moi, j'aimais bien l'ordre chronologique inversé parce que c'était simple, c'était facile. Mm-hmm. Si tu follow 12 000 personnes, forcément, c'est un peu plus long. Mais du coup, maintenant, ça te classe les trucs tout seul. Et en plus, ça t'insère des gens que tu connais pas. Ah. Maintenant, pour t'aider à découvrir des nouvelles personnes à suivre. le mot officiel de Instagram, c'est de dire « Non, mais attendez, on vous en rajoute pas tant que vous avez des trucs à voir. » Ce à quoi j'ai envie de répondre, vous foutez pas de ma gueule. Parce que, écoutez, je l'ai découvert donc il y a 2 jours, j'ai vu une meuf dans mon truc, genre, tiens, je te connais pas. Et en fait, après, j'avais plein de posts que j'avais pas vus. Donc déjà, je n'y crois pas une seconde. Et c'est l'algorithme d'Instagram. Déjà, j'ai jamais compris comment il fonctionnait pour sélectionner les photos que j'avais envie de voir. J'ai fait mes airs guillemets à côté du micro, comme d'habitude. et là, du coup, c'est vraiment insupportable. Donc je ne sais pas, je ne comprends pas arrêtez de nous aider, en fait, tu vois.
Oui, c'est ça, en fait. Et, à nous aider, on va être honnête 5 minutes, ce qu'ils veulent après, derrière, c'est pouvoir pousser de la pub. Mais.
Ah, puis ça, ils s'en poussent, hein. Ils t'en poussent de plus en plus en ce moment. Mais le truc que je comprends pas, c'est combien d'argent ça vous coûte, les mecs, de mettre une option dans une sous-option, tu vois, qu'on doit être 12 à trouver, où on peut revenir comme c'était avant. on garde la pub, on n'essaye pas, tu vois, on n'est pas méchant. Mais foutez-nous la paix quand on utilise un de vos outils, c'est incroyable ça. Donc voilà, ça continue. Et Instagram étant le truc qui cartonne le plus actuellement, un des trucs qui cartonne le plus côté c'est réseaux ça. Sociaux, ouais. C'est vraiment super pénible quand ils font n'importe quoi. Mais j'ai envie de te dire, si on est assez con pour continuer de l'utiliser, c'est...
Oui, voilà, on est un peu captif.
on n'a pas le choix.
Et ça va être des airs de rente quand même là, mais on va passer aux vraies rentes maintenant, et donc on va revenir à nos amis d'Apple.
On va me dire oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette parce que ça c'est honteux, ça. C'est de la merde.
Alors, Apple. Donc on a parlé de la batterie, c'est bien. On en reparlera, hein, parce que cette histoire de batterie est loin d'être finie. Et je pense qu'on en a pour tout 2018. Donc faut pas trop tirer sur la corde, faut en garder pour plus tard. Mais j'ai envie de vous raconter une belle histoire, parce que s'il y a un truc où Apple est vraiment, mais vraiment critiquable, c'est sur toute sa gestion dès que ça touche un peu à Internet, en fait. Quand je dis Internet, c'est que, tu vois, Google, c'est les professionnels du web, vraiment. Apple, c'est plus compliqué. Ils ont une relation un peu plus délicate avec ça. Et ça touche aussi à leurs services en ligne en général. Et tout à l'heure, il m'est arrivé une belle histoire et je me suis dit que ça allait vous faire rire. Parce que je vous connais. Je sais qu'il y a des utilisateurs Android un peu haters sur les bords, avec l'accent. Je me suis dit que celle-là, elle était mignonne, elle est spécialement pour vous. Donc tout à l'heure, je me découvre, d'ailleurs dans Instagram, je découvre des vidéos qui ont été faites avec un truc qui s'appelle TikTok. Et TikTok, c'est un réseau social à base de vidéos qui cartonne en Asie actuellement. D'accord. Et je me suis dit, tiens, c'est rigolo, il y a des fils débiles, des trucs qui te font faire des voix un peu stupides. En même temps, tu vois, tu fais semblant de parler, ça déforme ta voix. Bref, je me suis dit, tiens, c'est rigolo, et puis je veux peut-être en parler sur Geekzone. Donc, je cherche sur le net avec mon iPhone. Cruelle erreur, mais elle est hyper importante pour la suite de l'histoire. Donc, je finis par trouver un lien qui me dit, c'est bizarre, il est pas sur le store. Ok, très bien, je le trouve sur le web, j'appuie sur le lien. Bon, ok, cette app n'est pas sur le store FR. Est-ce que vous voulez appuyer ici pour la voir sur le store? Alors, je me rappelle même plus, c'était même pas le store US, mais c'était en anglais. Et moi, comme un imbécile, j'ai dit ok. Parce que si on me propose dans une box Apple le truc pour aller voir l'application, je me dis que c'est safe.
Et ben non.
Ça, c'était l'erreur de la journée. Bon, alors, c'était pas la seule, parce que cette journée était compliquée, mais c'est pour plus tard. Hein. Et du coup, je me retrouve sur un autre store, très bien, tout en anglais, ok, super, où je ne vois pas l'application. Bon. Alors là, je suis un peu vénère, mais je suis sur un store anglais et l'app n'est toujours pas dispo. Bon, ça tourne mal, comme diraient certains casteurs français. Et je me dis, je vais revenir sur le store français. Comment on fait?
Ah.
Parce que à ce moment-là, donc, tout mon OS est en français, hein. Mon compte est toujours lié. Je suis sur un store qui n'est pas celui de mon pays, ce qui normalement n'est pas possible. On peut pas aller sur un store de soi-même avec ses petits doigts.
Ouais.
Et du coup, je me dis, mais what the fuck? Je prends mon iPad. Et là, mon iPad, je m'aperçois qu'il a aussi switché sur ce store, automatiquement. Magnifique. Je me dis, mais les mecs, on a bien ri. Je regarde sur mon Mac, mais lui, il en a rien à foutre. Il est toujours sur le store français. Il se dit, très bien, je sais pas ce que tu fais, mais tu sais, iTunes, c'est compliqué. Tu vois, déjà, quand tu veux lui faire des trucs en cliquant dessus, il veut pas. Donc là, je me suis dit, on va s'occuper de l'iPhone et de l'iPad et on va revenir. On va bien trouver une solution. Ça m'a pris 20 minutes.
Ah ouais.
Pour trouver comment on revenait sur le store français. Alors, je vous fais pas toute la... Parce que, tu vois, c'est pas durant, on n'est pas dans le tuto, mais si ça vous amuse, je vous expliquerai sur le forum toute la démarche pour revenir sur le bordel. Il y a plusieurs endroits où on est censé pouvoir revenir sur un store et changer de truc. Sauf que moi, je suis abonné sur Apple Music, ok? Et quand tu cliques sur changer de pays, etc., ça te dit, ah oui, mais non, là, faut que tu te désabonnes d'Apple Music. Je veux pas me désabonner d'Apple Music, je veux juste changer de store, bordel! non, tu peux pas. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait un autre menu qui permet de forcer le truc, mais en fait, il permet pas de forcer le truc. Je me suis délogué. Quand je me suis relogué avec mon compte, il m'a dit, non, tu peux pas être sur ce store-là. T'es obligé d'être sur le store français. Je fais, ça tombe bien.
C'est ce que je veux.
Bordel de merde. Et là, le truc me remet sur le store français. Je fais, c'est bon, tous mes textes sont français. J'ai bien le store, avec les présentations des applications qui est d'ailleurs fantastique maintenant, avec plein d'infos. Et je pense qu'ils ont engagé des anciens journalistes pour écrire tout ça. C'est génial et tout. Et là, sur mon iPad, je m'aperçois que les updates sont toujours en anglais. Donc, les textes des updates sont toujours en anglais. Ça fonctionne. C'est-à-dire que je peux les télécharger. Ça se met à jour. Très bien. Mais c'est toujours en anglais. Alors, évidemment, j'ai éteint, j'ai redémarré et tout. Et là, je me suis dit, ok, j'ai posé l'iPad. J'ai plus touché à rien. Mais moi, la moralité du truc, c'est que quand vous avez la petite box Apple qui vous dit « Voulez-vous aller voir sur un autre store ?» N'y allez pas. Ne cliquez pas sur cette merde. Parce que depuis iOS 10 ou 11, bah, la manipulation qui permet de changer de store est devenue hyper compliquée. Avant, on pouvait aller s'amuser à aller télécharger les trucs sur le store américain sans problème. C'est devenu une tannée. Donc voilà, n'y allez pas, ne le faites pas. Et Apple, s'il te plaît, si tu m'écoutes... Fais en sorte qu'on puisse switcher et que ça soit pas juste des bits dans des menus hyper planqués. Avant, c'était relativement simple. Maintenant, c'est l'enfer. C'est insupportable.
C'est fou quand même qu'une firme qui a réussi à donner des leçons d'ergonomie à plein de gens, avec notamment avec l'iPhone, se plante autant sur le web. J'y pense là parce que en fait c'est le même problème. On l'a vu récemment avec iTunes par exemple, enfin leur store podcast en fait. Ils ont des pages artistes et quand tu vas sur la page artiste sur le web, bah tu n'as aucun des podcasts de cet artiste. Donc nous on s'était fait une belle page Geekzone en se disant c'est cool, on aura une landing page avec tous nos podcasts. Bah non, tu les vois que dans iTunes en fait. Sur le web ça marche pas.
Non mais cette histoire me fait hyper rire. On pourrait parce que voilà. La vraie moralité de cette histoire, c'est que quand vous êtes un Apple hater et vous utilisez pas les produits Apple, fermez vos gueules. Fermez vos gueules parce que les gens qui utilisent vraiment les produits Apple sont les gens qui souffrent. Nous, on sait, tu vois, je peux vous en balancer des chips comme ça. Ah, mais à tire l'arigot, il y a plein de trucs qui déconnent. Mais sur le web, bah, c'est une cata. Enfin, je veux dire, si quand vous voyez sur Asia Vibe, je mets des petits liens vers des trucs d'Apple Music parce qu'ils sont pas dispo sur Spotify de toute façon, sur mes trucs de K-pop. Eh ben, le site que j'utilise pour faire ça, mais...
Et ouais.
Non, le web, c'est un métier, et c'est pas l'heure, et ça serait bien que ça le devienne, que ça le devienne vite, parce que moi, de l'autre côté, là, en ce moment, dans le travail qui fait manger, j'écris des trucs pour Google, et donc sur les technologies de la Google Cloud Platform. Eh ben, quand on a fini de pioncer, et que c'est son boulot de développer des trucs sur le web, on s'aperçoit que les mecs sont quand même super en avance, et que même chez Microsoft et Amazon, ça rigole pas trop, quoi.
Voilà. Kev qui jette des fleurs à Google en fin d'année 2017, tout arrive.
Pour les trucs pro, détendez-vous les mecs.
Et c'est la fin de ce 32e épisode de Torréfaction. On se retrouve, j'ai pas envie de la faire, donc je vais pas dire l'année prochaine. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi.
Mais pourtant, Fasquille, c'est bien l'année prochaine, hein.
Eh oui, je sais. Ça ne fait rire personne.
9h, donc, comme toutes les semaines. N'oubliez pas, donc, les Peep Awards à 10h tout à l'heure sur le site. Vous allez voir, ça vaut le détour. Et puis, bon week-end, bon réveillon, CAF.
Bah, écoute, toi aussi, buvez bien, mangez bien. Et rappelez-vous que le premier, bah, ça sera comme le 31 la veille.
Allez, à la semaine prochaine. Ciao.
Ciao.
Un podcast signé Fasquille. Fasquille.com.
Des actus, des dossiers, des tutos, des podcasts. Geekzone, c'est le site de la culture geek sous toutes ses formes. Et aussi une communauté en or. Retrouvez-nous sur geekzone.fr et soutenez-nous via Patreon. Geekzone.fr, par des geeks, pour des geeks.